Donc le Christ est ressuscité. Je devrais faire le en roumain normalement parce que vous êtes tous des roumains. Mais d'abord, premièrement, je ne suis pas capable, et deuxièmement, les auditeurs sont francophones dans l'ensemble. Mais donc il y a tas de nous pour les down roumanesti. Donc j'explique pour ceux qui sont là ce soir qu'il s'agit de cours pour ce qu'on appelle la propédeutique, c'est-à-dire ici en France, la propédeutique, c'est une sorte d'initiation en fait à la matière concernée, et donc on essaie de dire des choses très, très simples, très basiques, plutôt de genre catéchèse au fond. Alors donc pour vous c'est pas très intéressant parce que vous savez déjà probablement tout ça, mais ça va faire des révisions, voilà. Et donc il s'agit d'un cours sur la liturgie, enfin les formes liturgiques, et plutôt du point de vue de la théologie de la liturgie, c'est-à-dire de l'interprétation, du sens de ce que nous faisons quand nous officions de telle ou telle façon, parce qu'il y a différentes façons de traiter la liturgie. On peut la traiter de manière historique, on peut la traiter d'une manière vraiment technique, c'est-à-dire en analysant les formes de manière scientifique. Il y a une science liturgique en quelque sorte, mais ce n'est pas l'objet ici. Ce serait un petit peu, ce serait pas pour la propédeutique en tout cas. Et donc, moi, ce qui m'incombe, c'est plutôt ça, la question du sens, de l'interprétation, de la signification de ce qu'on fait, je dirais plutôt de ce qui se passe, en fait. Parce que, finalement, dans notre Église, donc, nous célébrons, nous sommes des célébrants par le baptême. C'est une... Comme je le dis souvent, chaque fois que j'ai un peu l'occasion de le dire, le baptême est en fait une ordination, une chirotonie au sacerdoce universel. Et la preuve, c'est que certaines des prières, en tout cas, des chants au moment de la procession autour de l'évangile et du baptistère sont les mêmes que celles qui sont chantées pour l'ordination du diacre, du prêtre et de l'évêque, et également d'ailleurs pour le mariage. Ce qui veut dire que il y a une unité profonde, si vous voulez, dans les rites, et qui montre qu'il y a une réalité unique en fait ici. Donc par cette entrée dans le sacerdoce royal de l'Église et dans cette inclusion dans le sacerdoce du Christ, en fait, hein, nous devenons des célébrants, des officiants, et tous les présents sont dans la liturgie, quel que soit l'office liturgique d'ailleurs, sont des célébrants et non pas des spectateurs, et non pas des consommateurs, et non pas même des assistants. Et donc c'est très 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 important cette question-là. Et donc il faut dire que c'est vrai pour la liturgie eucharistique évidemment, mais pour aussi les autres offices, même le cours précédent de liturgie j'avais présenté l'office de vêpres, ou ce soir j'aurais présenté l'office de matine, mais ensuite j'aurais présenté l'office de petite complie, grande complie, les heures. C'est toujours la même réalité, c'est-à-dire qu'il y a un peuple, hein, même deux, trois personnes, ce n'est pas très grave, mais un peuple, c'est-à-dire une communauté, même petite, mais une communauté de baptisés, une communauté de personnes qui confessent la vraie foi et qui sont baptisées dans l'Église véritable du Christ, et ce qui veut dire une communauté de personnes qui ont la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça qui est ça, la qui est nécessaire, disons, pas du point de vue seulement canonique, si vous voulez, mais du point de vue de la réalité de ce qu'on fait. Hein. Ce n'est pas une injonction de caractère juridique, c'est pas une injonction de caractère même canonique, parce que canonique ça veut pas dire juridique, c'est encore autre chose. C'est pas une injonction de caractère formel ou rituel, ou c'est rien de tout ça, c'est la question du réel. C'est-à-dire ce que fait l'Église quand elle célèbre, même si l'Église n'est présente que par deux ou trois personnes, c'est ce qu'elle fait là, avec le Christ invisiblement présent, avec le Saint-Esprit qui agit, avec les saints qui sont tous invisiblement présents, les défunts, etc. Bon, tout ce, c'est ce qui se passe là qui est vraiment extraordinaire et miraculeux et prophétique, en fait. Prophétique parce que cette action, même une très très petite prière, une bénédiction de maison, une bénédiction de repas, la prière à la maison devant les icônes, tout ça, ça dévoile le réel, ça dévoile la réalité du salut, ça dévoile la présence du Christ qui se donne, qui donne sa vie, qui donne la vie éternelle, qui donne le Saint-Esprit, qui nous met en communication avec le Père, qui nous fait tout connaître de lui-même et du Père. Donc c'est ce miracle-là, si vous voulez, qu'il faudrait avoir à l'esprit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, chaque fois que nous faisons même le signe de la croix. Mais les gens qui font le signe de la croix quand ils entrent dans la voiture, ou qu'ils sortent de la voiture, ou qu'ils entrent dans un compartiment de métro, le signe de la croix lui-même, si vous voulez, qui est peut-être le geste, l'acte liturgique le plus petit, eh bien le signe de la croix doit pouvoir être cela, c'est-à-dire pas seulement une forme extérieure, pas seulement une habitude rituelle, une habitude religieuse. Il faut absolument arriver à retrouver le sens et le contenu divino-humain de tout ce que nous faisons. Je disais surtout pour nous, les orthodoxes, parce que comme la richesse liturgique, la richesse rituelle, la richesse, la profondeur des offices, des prières, le patrimoine que nous avons est tout à fait extraordinaire et exceptionnel. Nous sommes la seule Église chrétienne à avoir conservé tellement, tellement de richesses. Quand je dis nous, c'est-à-dire les orthodoxes byzantino-slaves, mais ça inclut aussi les orthodoxes, vous savez, de tradition plus ancienne, comme les Éthiopiens, les Coptes, ils ont aussi gardé des choses très 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 anciennes. Donc nous avons, eux et nous avons gardé tellement de richesses que quelquefois ça comporte un péril. Le péril étant le péril du formalisme, le péril du ritualisme, le péril de la magie aussi, c'est un danger assez important. Donc c'est vrai que ces formes de péril ne se rencontrent pas chez les catholiques, qui ont quand même beaucoup, beaucoup simplifié les choses, et se rencontrent encore moins chez les protestants, qui, pour la plupart d'entre eux, ont des moments de culte qui sont, presque exempts de rite. L'élément rituel est vraiment microscopique, c'est presque imperceptible. Il y a des éléments rituels, mais vraiment imperceptibles, et nos amis protestants sont assez opposés d'ailleurs à ce qui est de caractère rituel, parce qu'ils pensent que justement ça présente trop de dangers. Alors voilà, donc on sait dans ce contexte-là, c'est que les orthodoxes que nous sommes, que nous essayons d'être, parce que c'est pas si facile d'être orthodoxe, nous essayons de retrouver le sens vivant de ce que nous faisons. Donc je vais y revenir. Alors d'abord, j'aimerais dire que ceux qui veulent étudier un peu tout ça, donc je rends à nouveau les éléments bibliographiques que j'avais donnés pour l'office de Vêpres, qui sont à peu près les mêmes, pas tout à fait, mais je les redis parce qu'ils vont resservir. D'abord, je renvoie quand même à l'article Matine, qui est sur le site sagesseorthodoxe.fr. C'est un article qui est assez, qui n'est pas complet, si vous voulez, mais enfin qui fait un bon petit résumé. Je l'ai apporté avec moi pour éventuellement lire des parties. Ensuite, le livre de prière qui a été fait par nous, c'est-à-dire la métropole roumaine en français, et aux éditions Apostolia en 2014, en page 93, il y a une bonne partie des prières de l'office de matine qui sont disponibles. Ensuite, le hieraticon que j'apporte toujours avec moi, qui pour moi est vraiment la référence pour la plupart de nos offices, hieraticon office et liturgie au pluriel, édition de Shepton en 2000, et page 67, à partir de la page 67, il y a les différentes formes de l'office de matine. Je dis les différentes formes parce que l'office de matine est dans la tradition de l'Église des Pères, l'office le plus complexe, le plus riche, le plus difficile, le plus varié aussi, le plus intéressant. Moi, personnellement, je suis enthousiaste absolument de l'office de matine. Pour moi, c'est vraiment le haut de gamme de la prière. Bon, au-dessus de ça, il y a encore la liturgie de Saint Jean Chrysostome, mais encore au-dessus, il y a la liturgie de Saint Basile. Mais enfin, c'est presque en haut. L'office de matine est presque tout à fait en haut de la hiérarchie angélique, en fait, de la prière ecclésiale. Donc, voilà. Et ensuite, vous avez ce que j'ai déjà donné comme référence pour le pour Vêpres, le psautier qui est publié au monastère de la Théotokos et Saint-Martin, c'est-à-dire à Cantoque. Également les psaumes, prières de l'Église, publiés à Paris 1979, qui étaient une traduction donnée par le Père Placide, que moi personnellement j'aime beaucoup, parce que j'y suis habitué. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, si vous voulez, mais c'est une traduction qui tient vraiment compte de la tradition des saints-pères. Bon, c'est la traduction des psaumes, on peut toujours en discuter. Ensuite, ce que je donne, que je n'avais pas donné la dernière fois, c'est le calendrier de la fraternité orthodoxe, et pas seulement le calendrier, mais l'index, plutôt les index qui sont donnés à la fin. Et donc c'est très intéressant parce que dans ce calendrier de la fraternité, ça s'appelle Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, qui a son congrès la semaine prochaine, le congrès trisannuel la semaine prochaine. Dans ce calendrier, il y a des indications très très précises données pour la façon de célébrer l'office de matine, pour telle fête, quand la fête se combine avec le dimanche, etc. Donc toute la complexité de l'office est souvent bien exposée dans ce calendrier. C'est quand même assez bien fait, en sachant qu'ils suivent plutôt les usages russes, les usages slaves, qui quelquefois peuvent être un peu différents des usages grecs, sachant que nous, l'Église roumaine, nous avons des usages un peu mixtes, c'est-à-dire nous avons des usages qui viennent de l'Église russe et des usages qui viennent de l'Église grecque, et nous faisons notre propre typicon roumain avec cela. Donc là aussi, si on veut parler du typicon roumain, ce n'est pas en langue française, donc je ne peux pas en parler beaucoup plus pour les étudiants qui écoutent ici, mais il faut savoir qu'il y a une édition très très complète du typicon de l'Église roumaine, qui est assez complète, et en plus dans les éditions des livres d'heures, le Chaslov roumain, il y a des indications aussi sur la façon d'organiser les offices. Donc on peut trouver ça, c'est en langue roumaine. Hein. Ensuite, comme ouvrage intéressant, il y a ce qu'on appelle le Grand Livre d'heures, qui est effectivement, je n'ai pas apporté, qui est un peu encombrant. C'est un gros livre qui comporte pratiquement tous les offices de façon très complète, publié par la Diaconie Apostolique en 1989. Mais je ne le conseille pas tellement, si vous voulez, aux étudiants qui sont ici branchés, parce que je pense que pour commencer, par exemple, pour commencer à connaître l'office de matine, il faut peut-être s'équiper avec des instruments plus simples que ce grand livre d'heures que je trouve, pour ma part, un petit peu complexe et pas tellement facile à déchiffrer. Bon. Il y a eu aussi un livre d'heures publié encore par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale en l'an 2000, qui est assez bien. Je pense qu'il est encore accessible, on peut le trouver. En l'an 2000, je pense qu'il en reste. Et, bon, alors c'est un petit peu l'inverse du grand livre d'heures, c'est-à-dire que c'est une version assez simplifiée, mais qui, probablement, quand on veut commencer en paroisse, puisque je pense qu'ici que les étudiants qui écoutent sont des étudiants qui appartiennent à des paroisses souvent isolées, avec peut-être pas grand monde pour chanter, un prêtre qui vient de temps en temps quand Dieu veut, une fois par mois, quelques fois moins, donc peut-être que ce livre d'heures de la fraternité orthodoxe est peut-être assez commode quand même pour des très très petites communautés Et alors, ces petites communautés ont également à leur disposition, alors ça, je trouve que c'est assez bien, un volume qui s'appelle le Petit Horologion, c'est-à-dire, en français, ça veut dire livre d'heures, le Petit Horologion, publié par les monastères de Saint-Antoine et de Solan en 2009, déjà. Et ce petit volume que j'ai apporté, qui est tout beau, je le montre, je sais pas si ça filme vraiment, mais enfin, s'il y a vraiment une image pour le voir, je trouve tout beau, c'est ravissant comme édition, c'est ravissant à l'intérieur, c'est superbe. Alors, ce petit livre-là est très intéressant parce qu'il présente les offices pour qu'on puisse les célébrer sans prêtre. Et ça, c'est très, très, très important parce que c'est souvent, je voulais en parler plus loin, la célébration non presbytérale des offices, que ce soit le vêpre ou matine, c'est précieux parce que justement ça se rapporte à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si nous sommes tous par le baptême des célébrants, si nous sommes tous membres du sacerdoce du Christ, par le baptême, cela veut dire que nous sommes tous compétents pour célébrer. Et que, je ne verrai pas dire du mal des prêtres, c'est très bien d'avoir des prêtres, ce ne sont pas les prêtres qui font l'Église, c'est l'assemblée des baptisés qui comporte, bien sûr, les prêtres, les évêques, les diacres et le peuple. Mais une paroisse, ça arrive actuellement, ici dans notre doyenné romain de France, il y a quand même plusieurs paroisses qui n'ont pas de prêtres. Et donc les fidèles sont encouragés à se réunir en l'absence de prêtres, à avoir la clé du lieu de culte ou de l'église s'ils en ont une, et à faire quelque chose ensemble. Ça peut être des vêpres sans prêtres, ça peut être des matines sans prêtres, ça peut être autre chose, le fils des typiques, des acatistes, ce qu'ils veulent. Je ne sais pas, avec la bénédiction du prêtre le plus proche ou de l'évêque. Enfin, il y a toujours un lien pastoral toujours avec quelqu'un quand même quelque part. Hein. Mais le prêtre n'étant pas présent. Et par exemple, je pense à des paroisses qui ont un diacre mais qui n'ont pas de prêtre, en l'absence de prêtre, le diacre ne fait rien. Donc ça veut pas dire que ça ne sert à rien d'avoir un diacre, parce que ce n'est pas tout à fait juste ce que je dis. Le diacre, en fait, opère il a une activité de coordination à ce moment-là. Donc d'abord, il demande la bénédiction à l'évêque ou au prêtre le plus proche, et puis il coordonne entre les personnes présentes. Souvent il connaît bien les offices, donc c'est lui qui va diriger, mais c'est à peu près tout. L'office lui-même n'est absolument pas différent d'un office dont le diacre serait absent. La présence du diacre, si vous voulez, ne change pas la structure de l'office, alors que la présence du prêtre ou de l'évêque modifie complètement les prières en plus, enfin bon. Voilà. Alors, c'est pour ça que, pour dire que ce petit horologion, il a été fait pour ça. C'est écrit au début. Je vous lis le petit horologion contenant les parties communes des offices célébrés sans la présence d'un prêtre. Alors ça, c'est vraiment très utile. Et quand on regarde ça rapidement, on s'aperçoit que sans prêtre, les offices sont très complets, très riches, très intéressants. C'est pas grave du tout. Mais simplement, il faut apprendre à les célébrer correctement. Pour ça, il faut suivre ce qui est donné, je pense. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'éléments et certainement d'autres publications, pour ne parler que des publications en français, qui peuvent servir d'instruments, si vous voulez. Alors, les introductions, je vois par exemple, dans les éditions qu'on a ici, il n'y a pas d'introduction qui explique les offices. Dans le Hieraticon, il y a quelques explications qui sont données, mais plutôt à l'intérieur de l'office lui-même. Je veux dire quand même que, avant de passer à autre chose, pour terminer sur la bibliographie, dans le Hieraticon que j'ai ici en main, que je montre pour ceux qui regardent, s'ils peuvent regarder, dans le Hieraticon, on a plusieurs indications pour l'office de matine. Bon, d'abord, il y a page 65, c'est là qu'il commence, voilà. Non, page 65, c'est l'office de minuit, donc on laisse pour le moment. Page 67, il y a quelques indications concernant la relation entre l'office, ce qu'on appelle l'office royal et l'office de matine lui-même. Bon, il n'y a pas d'indications concernant la place où se trouve le prêtre, s'il est là. C'est pas très très intéressant. En revanche, plus loin, voilà, il y a par exemple des indications pour l'office de matine en carême, page 499. Donc des indications qui sont vraiment très 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 utiles. Il y a des indications également concernant la célébration sans diacre. et c'est assez long. Donc voilà, comment est-ce qu'on fonctionne? Donc il y a beaucoup d'indications qui sont données. Et puis à la fin de ce volume, que je trouve très bien, il y a des explications données pour les faits, par exemple, la période du triode. Donc des indications, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on célèbre l'office de matine pendant la période du triode, ou comment est-ce que on célèbre l'office de matine en ce moment, dans la période du pentecostaire. C'est parce que ceci varie beaucoup, hein. Ceci peut varier beaucoup. Donc voilà, beaucoup d'éléments qui sont donnés, et ça prend des pages et des pages, il y a même des prières supplémentaires, par exemple la prière pour la bénédiction du pain, la bénédiction des œufs, tout ça c'est donné dans cette partie-là, donc tout ce qui vient en plus, si vous voulez, dans les moments de fête extraordinaire, sachant que le triode, la période du triode est une période festive assez extraordinaire, et que la période du pentecostaire est une autre période festive vraiment assez remarquable, celle dans laquelle nous sommes actuellement. Alors, donc, voilà un petit peu les éléments que vous pouvez avoir si vous avez envie de célébrer les offices ou d'avoir des indications, voir comment ça se fabrique. Je pense maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'office de matine comme l'office de vêpre, je reviens un petit peu à mon propos antérieur, avant d'avoir des livres, des organisations, des rites qu'il faut faire, parce que si tu ne les suis pas, tu n'es pas un bon orthodoxe, etc. Avant ça, il y a la vie. Avant ça, il y a la vie. Au début, on va dire, au commencement était la vie. Dans le principe était la vie. Et souvent, nous prenons la réalité un peu à l'envers, c'est nous achetons des livres liturgiques, nous commençons par ça, mais en fait, nous commençons par la fin. Commençons par la fin. Quel serait le début? Mais le début de ces offices-là est une intuition initiale. Surtout pour l'office de matine, c'est très particulier. J'ai parlé de l'office de vêpres l'autre jour, en rappelant que c'était un office qui est très proche de la tradition juive, c'est l'office du soir, c'est l'office en fait qui marque le début du Shabbat. Donc c'est très juif, au fond, l'office de vêpres. Bon, c'est une chose. L'office de matine, c'est un petit peu différent, je ne vois pas de lien particulier avec la tradition juive. C'est quelque chose qui est proprement lié au temps de l'Église, étant entendu que l'Église est elle-même la continuité du judaïsme, on est bien d'accord là-dessus, mais enfin tout de même, si vous voulez, en tant que explosion en quelque sorte, un feu d'artifice, si je peux dire, du judaïsme, l'Église a quelque chose de particulier et qui se voit dans l'office de matine. Il y a une intuition de départ qui est l'origine de l'office de matine. Ce n'est pas un cas où on a pris des rites qui existaient déjà ailleurs, comme c'est le cas même pour la déminisurgie. Au fond, on a repris des éléments judaïques dans la constitution de la liturgie eucharistique. L'office de matine, je pense, ça part d'une intuition et qui est justement celle du temps où nous sommes. Qu'est-ce que nous connaissons? Quels sont les évangiles que nous avons entendus tous ces temps-ci? Et quel est l'évangile que nous allons entendre dimanche prochain? Mais ce sont ces évangiles de la résurrection. Les évangiles de la résurrection, on n'a malheureusement pas le temps de les lire ou de les relire, vous êtes censés les avoir lus, et entendus et relus pour vous-même. Et donc ces quatre versions, donc chez Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean, les quatre versions de ce qui a été vécu. Ce qui a été vécu, la mort du Christ, l'ensevelissement, la découverte du tombeau vide, à la fois le doute, la peur, l'inquiétude, l'émerveillement, la foi, etc. Enfin, cette espèce de sentiment, cette espèce de crainte religieuse extraordinaire qu'ont éprouvé les personnes, les femmes, pour commencer, les femmes Mirefort, ce saisissement religieux qu'elles ont éprouvé devant le tombeau vide. C'est ça, alors c'est presque inexprimable ça, il faut relire un peu les textes de l'Évangile, en l'occurrence, pour voir de quoi il s'agit. Je pense que c'est ce saisissement-là devant la présence du Christ ressuscité, ce saisissement devant la beauté spirituelle, la lumière spirituelle, le miracle en fait, exceptionnel, enfin, indicible, inexprimable du matin de Pâques. Je pense que c'est ça qui est l'intuition initiale de l'office de matine. Donc c'est important que ceci soit noté, parce que je ne pense pas qu'on le dise. On n'a pas tellement le temps de le dire, on ne pense pas à parler de l'office de matine de cette façon-là, à dire, mais attends, derrière l'office de matine, en substance, en substrat, ce qui sous-tend l'office de matine, c'est l'émerveillement pascal. C'est l'émerveillement pascal. Et l'office de matine, si vous voulez, c'est un office qui se célèbre principalement et en premier lieu le dimanche matin. Le dimanche matin à la première heure. À la première heure. Et il est, après ça, quand on peut, suivi de l'office de prime et de la divine liturgie elle-même. Donc c'est cette... je pense qu'on pourrait arriver vraiment à célébrer, nous tous, ensemble, célébrer l'office de matine, comment dire, sans préoccupation technique tellement, mais en ayant surtout une préoccupation spirituelle, c'est-à-dire de tester notre niveau d'émerveillement. Vous voyez ? Je crois que c'est ça qui manque beaucoup dans notre vie chrétienne. C'est qu'il y a un certain esprit qui je ne pense pas qu'il se soit retiré, mais que quelquefois nous perdons. Tout le monde ne s'en aperçoit peut-être pas. Je pense qu'il y a quand même des personnes qui s'en aperçoivent. Et quelquefois, nos offices peuvent être perçus comme des formes vides, comme des cadeaux apportés à Dieu, mais sans amour, sans émerveillement, sans dévotion, sans oblation de soi. Or, les femmes Mirefort, quand elles sont venues au tombeau, elles sont venues avec un amour extraordinaire. Elles étaient remplies d'une ferveur spirituelle, d'un amour, d'une tendresse pour le Christ qu'elle venait en principe oindre. Enfin, elle était venue pour ça le matin. Et une tendresse douloureuse en même temps, parce que la mort, l'inhumation, la descente de la croix, tout ça, ça avait été quelque chose d'horrible pour elle, comme pour les autres disciples et apôtres, comme surtout pour la Mère de Dieu. Mais Saint Grégoire Palamas dit ça, Saint Grégoire Palamas dit dans son homélie sur le dimanche des Mirefort, il dit que la Mère de Dieu était forcément parmi les femmes qui sont venues au matin de Pâques. Il dit forcément, il le montre très bien, il y a une indication sur qu'il y a plusieurs femmes qui s'appellent Marie, et celle qui est la plus discrète, la plus petite, la plus silencieuse, la plus normalement là, d'ailleurs, celle dont on ne parle pas parce qu'il est absolument évident qu'elle est présente, c'est la Mère de Dieu. Donc tout ce groupe-là de personnes, elles ne sont pas venues dans une attention rituelle ou liturgique ou formelle. Elles n'avaient pas des livres extraordinaires. Elles venaient pour accomplir une coutume juive, un petit peu différente, d'après ce que j'ai compris, d'ailleurs, de ce qu'était l'usage. Mais elles venaient surtout avec tout leur amour. Tout leur amour, toute leur tendresse, toute leur ferveur, toute leur foi, toute leur douleur. Et ils ont été remplis à ce moment-là d'un immense effroi, d'une crainte, apparemment une peur, mais un sentiment qu'elles étaient là devant quelque chose d'extraordinaire. Avant même que le Christ, dans certaines versions de l'Évangile, n'apparaisse et ne parle. Mais c'est ça le mystère des matines, si vous voulez. Une crainte au lever du jour, se trouver devant la présence merveilleuse de Dieu et exprimer cela à travers des gestes, des paroles, des signes quand même qui sont des offrandes et être disposé à entendre sa parole, à entendre sa parole. Il y a quelque chose qui est très caractéristique, je l'ai noté pour en parler plus tard, mais j'en parle dès maintenant parce que ça me démange. C'est que si on compare le fils de Vêpres et le fils de Matine, dans le fils de Vêpres, sous sa forme solennelle, ce qu'on appelle le fils des grandes Vêpres, en fait, je crois que vous faites la différence entre petites Vêpres et grandes Vêpres, et les grandes Vêpres sont celles dans lesquelles il y a une entrée. Les petites Vêpres, il n'y a pas d'entrée. Donc ce qui caractérise le fils des grandes Vêpres, c'est l'entrée. Il y a l'entrée de la lumière, on chante lumière joyeuse, le prêtre et le diacre entrent solennellement. S'il y a la liturgie, après ils entrent même avec l'évangile, dans certains cas, en suivant le type icône. Hein. Mais en tout cas, c'est l'entrée. Mais ce n'est pas l'entrée du prêtre, hein. Ce n'est pas l'entrée du diacre, c'est l'entrée du Christ. Hein. Donc ça a été très bien expliqué par le père Schmemann, qui est ma référence presque pour tout. J'ai de plus en plus d'ailleurs une admiration, une confiance, peut-être pas totale, mais très 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 grande dans l'enseignement de père Alexandre Schmemann en ce qui concerne la liturgie, les sacrements. C'est vraiment très très profond. Alors lui insiste beaucoup sur le rite de l'entrée. C'est pour ça qu'on célèbre aussi, même si on ne célèbre pas dans une église, on se débrouille pour mettre une icône du Christ, une icône de la Mère de Dieu, de toute façon, ce qui est quand même cette porte. Et qu'on puisse donc accomplir ce mystère de l'entrée, c'est le Christ qui entre, et il entre dans son règne. C'est-à-dire, on chante aux vêpres du dimanche, qui sont le samedi soir, évidemment, on dit le Seigneur règne, vêtu de majesté. Donc le symbolisme de l'entrée, c'est le Christ qui entre dans cette royauté, dans son triomphe. Le fils de Matthieu, si on compare à ça, c'est tout à fait autre chose, c'est le contraire. À ma connaissance, je regarde rapidement, que je ne dise pas de bêtises quand même. Voilà, c'est fait, j'ai regardé rapidement, il n'y a pas d'entrée à Matthieu. Qu'est-ce qu'il y a alors? Eh bien, à Matthieu, c'est l'inverse. C'est une sortie extraordinaire. Ah, bien sûr, dans le fils de Matine solennel, parce que si vous savez, vous ne savez pas, je vais le redire en tout cas, il y a bien entendu des formes, assez variées. Il y a des formes très 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 simples. Le fils de Matine, où la question ne se pose pas. Mais le fils de Matine un peu plus complexe, ben pour une fête, pour aujourd'hui, par exemple la fête de Saint-Georges, je vous assure que le fils de Matine est sensationnel, hein, et qu'il y a une sacrée sortie avec l'évangile, justement. Et c'est pas l'évangile qui sort, c'est le Christ qui sort. Donc c'est ce symbolisme de la sortie, c'est aussi un symbolisme qui vient du matin de Pâques. Hein, parce que le Christ est sorti du tombeau. Voyez. Donc tout est centré dans le fils de Matthieu, tout est centré autour de l'autel qui est le tombeau, l'autel-tombeau, avec l'autel dans les églises chrétiennes traditionnelles, on va dire orthodoxe, parce que c'est à peu près là que se conserve la tradition maintenant tout de même. L'autel est à la fois le trône, il est l'autel aussi quand même, l'autel du sacrifice, et le tombeau. C'est tout cela. Donc en fait, quand l'évangile est lu à l'autel, et qu'après ça il est sorti par les portes, devant le peuple, et que les fidèles sont invités même à le vénérer, à l'embrasser, justement, c'est important, la vénération de l'évangile à ce moment-là, et c'est vraiment le Christ qui sort du tombeau et qui parle. Et ça, c'est très très beau, c'est pour ça que là, il y a plusieurs façons de faire, soit le prêtre tient l'évangile devant les fidèles qui viennent le vénérer, qui viennent embrasser le Christ, évidemment, on est quand même bien d'accord, il s'agit du Christ, celui que justement la Marie-Madeleine l'appelle Rabouni, maître, elle veut le toucher, et elle lui dit, écoute, tu me laisses, laisse-moi, je ne suis pas encore remonté vers le Père, donc il met cette distance religieuse à son égard, mais en fait on vient quand même, on embrasse le bas de l'évangile, on embrasse un petit bout avec beaucoup de respect, et si sur les matines du dimanche, c'est un petit peu différent. Le prêtre devrait placer, je pense qu'ils font en principe, devrait placer l'évangile sur un embon, et tout le peuple, tous viennent embrasser l'évangile à ce moment-là. Donc le moment de la vénération de l'évangile qui suit cette sortie, qui suit la parole, c'est vraiment C'est de la mystique du Christ lui-même. Vous voyez, il faut avoir cette conscience aussi que le fils de Matine, on est en deçà du rite. On est dans l'intuition profonde d'une rencontre personnelle avec le Christ. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important dans l'Église de toute façon. Comment connaissons-nous le Christ par le Saint-Esprit dans l'Église? Par quel miracle l'Esprit prophétique du Père nous révèle la présence invisible du Christ, nous révèle le sens de ses paroles, nous donne assez de foi pour l'écouter, lui obéir, entendre ce qu'il nous dit, même dans la liturgie aussi. Bon, donc vous voyez, donc je voulais quand même parler de ça. Donc c'est ça ce que j'appelle l'intuition initiale qu'on trouve dans l'évangile de la résurrection, la croix, le tombeau, la résurrection, les femmes au tombeau, en Marc et Luc surtout, l'envoi en mission, les apparitions du ressuscité, et tout ceci étant condensé dans le chapitre 20 de Saint Jean. Bon, donc vous voyez qu'il y a ce qui est le plus important par lequel il faut commencer, c'est le sens de l'office. Mais je me méfie du mot sens, parce qu'en français, bon, je pense que dans l'autre langue c'est la même chose, en français le mot sens a une connotation très intellectuelle quand même. On est dans le domaine des significations. Le mot sens appartient plutôt au registre philosophique. Et je crois que pour nous, ce n'est pas comme ça que la question se pose. Ce n'est pas la question du sens qui nous intéresse, nous, en principe, les chrétiens. Ça choque peut-être des personnes que je dise ça. Qu'est-ce qui nous intéresse, si ce n'est pas la question du sens? Ce qui nous intéresse, c'est la question de la présence. Moi, la question du... Bon, bien sûr, la présence produit un sens, peut-être. C'est parce que, bien sûr, tout prend un sens avec la présence, mais ce qui est premier, c'est la présence. Et donc, nos offices de vie des matines, en particulier, puisqu'on en parle, c'est cette intuition de la présence et qui est la base, qui est l'expérience vécue. Et j'en parle pourquoi? C'est pas pour occuper mon temps de parole, mais c'est parce que je propose que nous consacrions du temps avant de dire la moindre prière à haute voix, que nous consacrions le temps qu'il faut pour nous mettre en présence du Christ présent, pour ressentir sa présence. Ça peut durer 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 1 quart d'heure s'il faut. Alors il y a des gens qui vont commencer à regarder leur montre et dire, voilà, quand est-ce qu'on commence, on va être encore en retard. Mais moi, je ne suis pas en retard, je suis en train de guetter si dans mon cœur il y a une compétence, une capacité, une sensibilité à cette présence du Christ. Me mettre en présence du Christ, ressentir sa présence avant de dire quoi que ce soit, et de faire quoi que ce soit. Oui. Et ça, je pense que ça devrait faire partie du programme. C'est-à-dire, avant de dire n'importe quelle prière, dire qu'il y a 5 minutes, j'allais dire, c'est énorme, 5 minutes. Il y a peu de gens, en tout cas parmi les Français, nous sommes des gens pressés, il y a peu de gens chez nous qui sont capables de rester 5 minutes sans rien faire. Apparemment, sans rien faire. 5 minutes sans bouger, 5 minutes silencieux, 5 minutes simplement à écouter leur cœur, à attendre le tressaillement de leur cœur avant de commencer à dire quoi que ce soit. Oui. Ça, qui va oser faire ça? Qui va oser faire ça? Quel prêtre, quel diacre, quel fidèle va oser dire, attendez. On attend de sentir un signal intérieur. Donc ça, c'est ça, si vous voulez, qui est la base, et ça qui fait, si vous voulez, généralement la théologie de l'Office de Matine. La théologie de l'Office de Matine, c'est en fait une mystique de la présence du Christ ressuscité. Non, je vais redire ce que je viens de dire, c'est très important. Une mystique du Christ ressuscité. Et c'est ça qui sanctifie le temps et l'espace, c'est-à-dire le lieu dans lequel on va célébrer de cette façon-là est un lieu sanctifié ou déjà sanctifié, mais un lieu rayonnant. J'ai ressenti ça encore cette année, comme chaque année d'ailleurs, pendant la semaine radieuse. Parce que pendant la semaine radieuse, dans la plupart des églises, je pense, où on peut le faire, on célèbre tous les jours, soit la demi-liturgie si on peut, soit en tout cas l'office de matines, tous les jours justement. Les matines de la résurrection qui sont sensationnelles, qui sont très courtes d'ailleurs, avec le canon de la résurrection principalement. Mais la caractéristique, c'est l'illumination de l'église, on allume tout, toutes les portes sont ouvertes. Je sais pas, il y a une sorte d'explosion en fait, spatiale, hein, qui se manifeste à ce moment-là. C'est ça la sanctification de l'espace par le mystère de la résurrection, et on sanctifie en même temps le temps, parce que c'est à l'heure, à la bonne heure si possible, quand le jour se lève, qu'on essaie de célébrer l'office de matine, au point du jour, quand les femmes justement ont été au tombeau. C'est-à-dire, essayer de revivre ça, pas de reproduire, c'est pas une répétition, c'est pas du copier-coller, c'est pas une imitation. Mais c'est une reviviscence, comme on dit en français, ce mot-là, c'est un beau mot, reviviscence, un beau mot. Ça veut dire revivre, je revis, ou je vis au présent ce qui est dit dans l'Évangile. Je vais, comme les femmes Mirefort, je vais vivre cet Évangile du matin de la résurrection. Mais alors, dans la semaine radieuse, c'est tous les jours. Et c'est ça que l'Église va nous apprendre. C'est pour ça qu'il est tellement indispensable que tout le monde vienne tous les jours à l'Église pendant la semaine radieuse. Enfin, ceux qui peuvent, bien entendu, vous allez me dire, mais on ne peut pas toujours. Écoutez, c'est extraordinaire parce que c'est un seul jour dilaté dans la semaine et un seul jour où on se sature de lumière, on se sature d'un espace dilaté, un espace éclaté, un espace explosé. Un espace sans frontières, voilà, un espace sans frontières, qui est l'espace du tombeau même, vous voyez, c'est très beau ça, en roumain il y a un beau mot ça, ne marginit, c'est très beau ce mot-là pour dire quelque chose qui est sans limite, enfin illimité, bon, en français illimité c'est un peu abstrait, je ne sais pas pourquoi, oui. Sans frontières, je crois, ne marginit en roumain ça veut dire sans frontières. Et c'est très, donc c'est quelque chose qui doit être vécu, mais moi je cherche les mots à expliquer quelque chose, ça sert à rien d'expliquer comme je le fais, je vais perdre mon temps, faire perdre leur temps aux gens qui écoutent, parce que ce qui est important c'est de le vivre. La semaine radieuse est passée maintenant, l'année prochaine, tout le monde va s'inscrire pour participer à la semaine radieuse chaque jour, et saisir expérimentalement ce mystère-là, oui. Alors après le dimanche de Thomas, c'est un petit peu différent, la sanctification du temps se fait dans un temps qui est différent, un ordre du temps qui est différent, on n'est plus dans le temps réel de la résurrection, on est dans le temps rapporté, j'ai déjà expliqué ça je crois dans d'autres cours, dans la liturgie, et l'expérience liturgique du temps elle est souvent de deux ordres, il y a l'expérience du temps réel, par exemple c'est très fort, dans la semaine de Lazare, la semaine qui précède la résurrection de Lazare, toute la semaine, la sixième semaine de carême, je ne sais plus, qui va jusqu'à la résurrection de Lazare, c'est une semaine qui est vécue en temps réel. Jour après jour, on suit le Christ qui va de Béthanie jusqu'à Lazare où il va ressusciter son ami. C'est vrai également pour la semaine sainte, surtout à partir du mercredi, je pense. Très très fort, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on est en plein dans le temps réel, et après ça on reste en temps réel jusqu'au dimanche de Thomas, parce que 8 jours après, comme dit l'Évangile, le Christ apparaît et Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc on est dans le temps réel, et après ça donc, il y a une autre dimension du temps liturgique, qui est, j'appelle ça le temps rapporté, c'est-à-dire avec un décalage, mais ça veut dire que la sanctification du temps se fait aussi dans tous les registres temporels. Le temps chronologique, le temps ordinaire, le temps, oui, le passé, le présent, le futur, différents ordres du temps, et qui sont des temps moins intenses, moins forts, moins extraordinaires que le temps réel, évidemment. Et dans la liturgie eucharistique, il y a un petit peu ça aussi, la première partie de la liturgie des catéchumène, c'est un peu du temps rapporté, qui est caractérisé par la lecture des épîtres, par exemple, qui racontent des choses qui se sont passées. Et on arrive à l'évangile, et à partir de l'évangile, là on entre dans la liturgie des fidèles, et ça c'est du temps réel, hein, temps absolu, où on est au présent même des choses, et absolument pas on n'est plus dans cette transformation des choses en passé. Tout est à nouveau au présent. Voilà, donc vous voyez ça, cette mystagogie de l'office de matine qui fait qu'en fait que tous les matins, et dans les, c'est pas seulement les monastères, mais certaines paroisses ou des fidèles, seuls à la maison, je ne sais pas, qui célèbrent cette office de matine, chaque jour on se trouve au point du jour, hein, cette recréation du monde, ce renouvellement du monde du huitième jour qui coïncide avec le premier jour de la création, le principe même. On est à la fois au principe de tout et au renouveau de tout quand on célèbre l'office de matine. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour ceux qui peuvent participer, célébrer, accomplir cet office de matine, quand ils quittent l'église ou qu'ils ont terminé et qu'ils vont, par exemple, à leur travail, leur relation au temps et à l'espace et aux personnes et aux gens, à la culture, au travail, aux inconvénients de la vie, est une relation tout à fait différente. Tout est complètement différent quand on a commencé la journée de cette façon-là, parce qu'on entre dans le temps de la journée avec une dynamique résurrectionnelle, en quelque sorte, avec une dynamique créationnelle, hein. Comment dire ça, oui. Et ça, on le ressent très très fort, c'est vraiment très 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 intéressant. Alors, après ça, entrons, si vous voulez, dans... Bah, ce que je viens de dire là, c'est ce qui est pour moi le plus important, hein, comme vous l'avez peut-être perçu. C'est ça que j'aimerais bien transmettre, partager avec mes amis quand même. Ouais. Mais bon, maintenant on peut entrer dans des choses un peu plus précises ou plus techniques, si vous voulez, qui sont très 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 intéressantes, qui découlent aussi de ce que je viens de dire. D'abord, ce que je peux présenter ici, c'est la structure de l'office de matine. L'office de matine est un office, comme je l'ai dit, très complexe, et donc il est animé de ce souffle prophétique de la résurrection que je viens de dire, mais si vous voulez, à part ça, il a une structure, il a une forme, il a une architecture, il a un squelette, il a une logique. Alors ça, je parle de ça d'abord parce que ça, c'est mon expérience, si vous voulez, d'occidental et de français, donc je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. C'est que, comment dire, quand nous, les occidentaux, les français d'origine, étant marqués plutôt par la culture romaine, hein, c'est-à-dire par une certaine logique occidentale, quand nous entrons dans le fonctionnement de l'Église orthodoxe, c'est en fait un bouleversement total des paramètres. C'est pas un changement de paroisse, c'est pas un changement de crèmerie, je sais pas comment dire, vous voyez. C'est en fait une métamorphose complète de la logique, hein. Parce que la logique de la tradition patristique n'est pas la logique de l'époque médiévale occidentale. Ce n'est pas la logique aristotélicienne, ce n'est pas la logique cartésienne, ce n'est pas la logique thomiste, ce n'est pas la... C'est une autre logique. Et au départ, enfin, c'est ma propre expérience, on a plutôt l'impression d'un désordre. Moi, en tant que Français, si vous voulez, quand j'ai commencé à entrer dans l'office qu'on appelle byzantin, qui n'est pas plus byzantin qu'autre chose d'ailleurs, enfin, plutôt gréco-slave, on va dire, ou palestinien, parce qu'en fait, c'est un office qui est très, très, très moyen-oriental au départ, hein, l'office de l'Église orthodoxe actuelle. Quand on entre là-dedans, on a l'impression que c'est un bazar, pas possible. C'est n'importe quoi, que tout est arbitraire, que rien n'a de sens, que c'est assez difficile. Et alors, on prend les livres qu'on veut, on essaie de, on se fait expliquer par des gens. Alors, toutes les explications qu'on vous donne vous contribuent à vous mettre la tête sous l'eau encore un peu plus. En fait, on passe par une sorte de désespoir liturgique, en quelque sorte, genre, je n'y arriverai jamais. Ça, c'est un peu l'expérience que j'avais faite aussi quand j'ai commencé à me servir d'un ordinateur il y a très longtemps. Je n'y arriverai jamais. Donc c'est quand on est confronté à un système, soit le système informatique qui a pu paraître très nouveau à certains d'entre nous, mais il y a à peu près 20 ans maintenant quand même, soit un certain système liturgique dans lequel on entre, c'est complètement paradoxal et déroutant. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de logique. Or, il y a une logique. On doit se rassurer tout de suite. Il y a une logique et qui est finalement assez simple. Et justement, au niveau où on est ici, propédeutique, je pense qu'il faut quand même présenter les choses de manière non pas simplifiée ou simpliste, mais simple, dans leur simplicité réelle. Il y a une logique. Je pense que la première logique, je reviens à ce que je disais initialement, c'est-à-dire la logique du logos. Il y a ce qui fait la logique de l'office des matines, c'est l'intuition de la résurrection. C'est ça qui est fulgurant, c'est ça qui commande l'enchaînement des parties dans l'office. C'est un peu comme en musique, sur une partition musicale, ce qui fait l'enchaînement des parties musicales, c'est un certain mouvement, un certain phrasé, il y a un phrasé musical qui fait que les différentes parties du morceau s'enchaînent et ne sont pas juxtaposées bêtement ou de façon artificielle. Et donc, dans l'office de matines, c'est un peu la même chose. Les différentes parties qu'on trouve, qui sont nombreuses, elles ne sont pas juxtaposées de façon artificielle. Elles sont prises dans un phrasé musical, en quelque sorte, et qui est justement ce jaillissement du Christ et du tombeau. Et ça va du début, qui est donc la bénédiction initiale. Si le prêtre préside, il dit « Gloire à la Sainte, consubstantielle, indivisible et vivifiante Trinité, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. » Et là, on s'arrête, parce que c'est déjà tellement, tellement, tellement extraordinaire de prononcer ces mots-là que... Bon. Et ça ce mouvement qui est donc initié par cette bénédiction fantastique, en fait, fantastique du début, le phrasé s'achève dans le très bel hymne qu'on appelle la grande doxologie, ou petite doxologie, qui est « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes ». C'est un texte sensationnel. Aussi. Donc, et dans cet hymne-là, sur lequel je vais peut-être revenir, on dit, c'est extraordinaire, à un moment, on dit à Dieu « Gloire à toi pour ton immense gloire ». Ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire, on glorifie la gloire. Et donc, c'est ça l'office de matines, c'est quelque chose qui est complètement lumineux, complètement, c'est une irradiation en fait, gloire à ta gloire, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, après tout. Donc voilà, l'office de matine, il a cette course-là, ce phrasé-là, et on y trouve donc des parties qui sont nécessaires dans un organisme, parce qu'un office liturgique, ça nous y tenons beaucoup, nous les orthodoxes, c'est quelque chose qui est organique, et donc on respecte beaucoup les différentes parties, parce que ça se tient, parce que ça se continue, il y a une ordonnance, voilà, il y a une ordonnance liturgique qu'on respecte beaucoup, et le grand ennemi, disons, quand même, de la célébration liturgique, ce serait l'arbitraire. Donc, il n'y a pas seulement le formalisme, le fétichisme, la magie, des trucs horribles comme ça, si vous voulez, dans les déviations liturgiques, mais l'arbitraire. L'arbitraire, c'est vraiment très, très, très mauvais. C'est une désobéissance profonde de l'être humain qui dit « Oh, ben tiens, on va faire ça, et qu'à prendre ça, et qu'à changer, tiens, on va mettre le n'importe quoi liturgique. » Ça, c'est terrible. On arrête tout de suite, on ferme. C'est vraiment un péché terrible. On ne peut pas se permettre devant Dieu d'être dans l'arbitraire, puisque ça veut dire que la dévotion qu'on a est capricieuse. Mais la vie religieuse, la vie mystique, n'est pas une vie capricieuse. C'est une vie de consécration de soi, d'oblation de soi totale. Il n'y a aucun caprice là-dedans. Les femmes, pour revenir à elles, j'aime beaucoup, les Mirofort, elles n'étaient pas capricieuses, les Mirofort. Elles ne faisaient pas des fantaisies. Elles n'étaient pas dans la subjectivité, elles n'étaient pas dans le psychisme, elles n'étaient pas dans... C'était pas dans les passions, elles étaient dans l'adoration de leur Seigneur. Donc les structures se trouvent non arbitraires. Mais je dirais un petit peu le contraire de ce que je viens de dire pour équilibrer. Les différents éléments qu'on trouve sont l'exapsalme, la grande litanie de paix, le répond le Seigneur est Dieu, il nous est apparu, ou l'Alléluia. Au même endroit, si c'est le carême ou l'office des défunts. Ensuite, le tropaire du jour, toujours. Les psaumes, avec des petites litanies et des catismes poétiques. Alors, les catismes, j'explique pour ceux qui ne sauraient pas, les catismes sont des compositions patristiques qui viennent après des psaumes. Alors, on appelle catisme biblique les psaumes et catisme poétique. Les catismes écrits, ces petites compositions poétiques, oui, rédigées par les pères et qui donnent le sens de ce qu'on fait. En fait, c'est toujours un contenu théologique, très très intéressant. Ensuite, après psaumes et catismes poétiques, ce qu'on appelle le polyléos, c'est-à-dire un grand hymne de louange, ou bien le mégalinaire, c'est-à-dire un hymne de louange pour la fête, ou bien les évloguitaires de la résurrection, si c'est le dimanche et à Pâques. Donc c'était une partie très 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 doxologique où justement il y a une sortie. C'est un des moments où le prêtre, c'est-à-dire qu'en fait le prêtre figure la sortie du Christ, il sort du tombeau, il sort du sanctuaire pour illuminer le monde et ça se manifeste dans ces chants-là. Ensuite la petite litanie et encore le troisième, puisqu'il y en a trois en tout, catisme poétique. Ensuite qu'on appelle les anavatmi, qui sont des versets bibliques qui préparent aussi, qui enseignent le mystère du jour, qui se rapportent au Saint-Esprit, qui se rapportent à la Trinité, au Père, etc., qui sont variables, et l'Évangile, si c'est un jour de fête, et si c'est le dimanche. En sachant donc qu'il y a des formes de matines ordinaires, non festives, dans lesquelles certaines de ces parties vont ne pas exister, en particulier la lecture de l'Évangile. Et après l'Évangile, qu'est-ce qu'on a? Toujours, à cet endroit-là, le psaume 50. On peut expliquer pourquoi, c'est très intéressant à dire. Le psaume 50 qui est lu, en principe, il ne devrait pas être lu, il devrait être dit, parce que c'est quand même pas extraordinaire de connaître par cœur ce psaume, de même l'exapsalme du début, normalement, on devrait le dire par cœur. Moi, j'ai quand même entendu, et c'est une chose habituelle, j'ai entendu Père... Théophile Parayan à Sumbata, dire par cœur l'exapsalme. Vous voyez, ce n'était pas extraordinaire. Mais dans tous les monastères, je pense à la Sainte Montagne, les monastères roumains, à Sukhasriya, on dit l'exapsalme, on dit six psaumes par cœur, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc ça serait assez intéressant aussi de dire que le par cœur dans l'office de matine est un enrichissement considérable. Parce que ça veut dire qu'on est en train de dire un texte qu'on s'est complètement approprié, qu'on est en train de le dire avec son propre cœur, sa propre âme. Quand on dit en français, on dit par cœur. En roumain, vous dites autre chose, vous dites dinafar, je crois. Pour dire quelque chose.
Pedinafar.
Bon, je ne sais pas très bien ce que ça peut vouloir dire. Nous, quand on dit quelque chose par cœur, ça veut dire que c'est vraiment avec le cœur. Tu vois, c'est un peu différent. Bon. Donc, le psaume 50. Après ça, une prière, très belle prière que je lirai si j'ai le temps. Seigneur, sauve ton peuple, etc., avec la mention des saints. Et ensuite, ce qu'on appelle le canon ou les canons. Canons qui sont des compositions patristiques se rapportant à l'heure, au jour, à la fête, toujours de circonstances, et qui se terminent, sauf indication, toujours par l'hymne de la Mère de Dieu, mon âme bénit le Seigneur et mon esprit ravi de joie en Dieu mon Sauveur, etc. C'est-à-dire que la place de la Mère de Dieu dans l'office de matine est une place extraordinaire. C'est un, est un office qui est impensable sans la mère de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, à cause de ce que je vous dis, de ce que je vous disais tout à l'heure, que la mère de Dieu fait partie du groupe des Mirefort. Elle est celle qui était au pied de la croix avec saint Jean de l'autre côté, et elle fait partie de celles qui ont été au tombeau. Donc la présence de la mère de Dieu dans un office qui a sa source dans la résurrection même est une présence évidemment indispensable. Mais j'expliquerai aussi, il y a des aspects techniques aussi se rapportant à ça, quelle est la place des zones bibliques. Mais les zones, il y a d'autres zones bibliques dans l'office des matines, mais ça je ne veux pas entrer trop là-dedans, mais celle qui reste toujours, presque toujours, c'est cette ode-là, l'ode de la mère de Dieu. Et après ça, si on continue, on a ce qu'on appelle les ex-apostillaires, c'est-à-dire des petits versets qui expliquent le sens de la fête, et on a tout un groupe de psaumes qui fait pratiquement un office en lui-même, qu'on appelle les laudes. Alors il faut savoir, justement, c'est quand même intéressant de faire des comparaisons avec les offices, dans l'office occidental, qui était bien conservé par les moines bénédictins pendant assez longtemps, qu'ils ont conservé encore dans certains monastères, l'office des laudes est un office propre. Donc ils avaient l'office de matine, correspondant à notre orthros à nous, mais ils ont, ou Trénias en vous, chez les Roumains, mais l'office des laudes est vraiment un office en lui-même. Alors dans la pratique que nous avons, nous, dans l'église gréco-palestino-slave, l'office des laudes est intégré à l'office des matines. Et je pense que c'est très important, ça, parce que à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'aspect doxologique des matines implique cela. En fait, l'office de matine, à la différence de l'office de vêpres, qui est beaucoup un office de supplication, on entre dans la nuit, on se trouve face à la mort. L'office de vêpres, si vous voulez, c'est une confrontation à la mort. Il faut bien comprendre ça. Alors que l'office de matine, c'est une confrontation à la vie qui a triomphé du tombeau. Et donc, tout l'office de matine est vraiment doxologique. C'est rempli de parties qui sont des parties de louange, de louange, de louange, de louange, tout le temps. Même dans les formes les plus simples, et en tout cas les psaumes, qu'on appelle les psaumes laudiques ou des laudes, ils restent même dans les offices de matine sous leur forme simple. Ce sont des psaumes qu'on n'enlève jamais. Soit on les chante, soit on les lit, il y a des formes solennelles ou pas, mais ils sont toujours là. Parce qu'ils font partie de l'esprit des matines, qui est un esprit de louange et de glorification. Et c'est vraiment très particulier. Je pense que l'office de matine, c'est vraiment par excellence un office de glorification. Glorification, de louange. C'est comme la divine liturgie. La divine liturgie est par excellence l'office de remerciement, d'action de grâce. Voyez. Et l'office de vêpres est par excellence l'office de confrontation à la mort, au mystère de la mort. Parce que c'est là que le vieillard Siméon dit cette chose terrible et magnifique. Il dit, maintenant, c'est un très vieux monsieur, hein, maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix parce que mes yeux ont vu la lumière qui vient de toi. Donc il a accepté la mort. C'est pour ça que l'office de vêpres, la théologie de l'office de vêpres, si vous voulez, c'est l'acceptation de la mort avec confiance en Dieu. Mais l'office de matine, c'est autre chose. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de comparer. Donc, on arrive à quoi? J'étais au laude, avec des strophes si c'est la fête, bon. Et après ça, donc, cette fameuse petite ou grande doxologie dont je parlais. Alors, là, il y a quelque chose aussi qui est intéressant à dire, si on fait de la liturgie comparée, parce que ça m'intéresse beaucoup aussi, la liturgie comparée, d'une part, parce que moi-même, en tant que Français, j'ai d'abord fonctionné dans un système de liturgie occidentale, donc je connais assez bien l'office occidental de la liturgie et des offices de vêpres, matines, etc. Donc je suis bien placé pour faire cette comparaison. Et puis en plus, je pense que c'est intéressant de faire du comparatisme liturgique parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une unité profonde derrière tout ça. Et souvent on la trouve, c'est généralement la vieille église de Jérusalem qu'on retrouve derrière tous les offices, que ce soit l'office gréco-slave, l'office latin, l'office syriaque, l'office éthiopien ou copte. Bon, il y a tous ces offices très très variés. Et en Occident, il y avait des offices très très variés entre l'office romain, l'office milanais et l'office lyonnais, par exemple. C'était des différences énormes, même dans le calendrier liturgique. La durée du carême était de 6 semaines en Gaule, alors qu'elle n'était que de 4 semaines à Rome. Vous voyez, c'était des différences et très très importantes à l'intérieur même du monde occidental, à l'époque jusqu'au Xe siècle, si vous voulez. Donc le comparatif. Alors ici, pour revenir à notre sujet, si on compare l'office qui est le nôtre avec l'office latin traditionnel, il y a dans tous ces offices-là, toujours, la grande doxologie, ce qui est appelé le Gloria dans l'office latin, qui est une partie très importante. Par exemple, au XVIIIe siècle, quand il y a eu des grands musiciens, il y en a eu des très très beaux offices écrits par Handel, par Bach, etc. C'était justement le Gloria qui a été mis beaucoup en musique, avec des trompettes extraordinaires, des chants magnifiques, parce que c'est vraiment la louange, je sais pas comment dire, parfaite en quelque sorte. Or cette prière-là, cet hymne de la doxologie qu'on trouve donc partout, elle est très très ancienne. Elle est à peu près, je pense, aussi ancienne que l'hymne Lumière Joyeuse qu'on a à Vêpres. À Vêpres, on a Lumière Joyeuse. À Matine, on a la doxologie. Ce sont des hymnes qui nous rattachent, si vous voulez, à l'Église, la première Église, des choses très, 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 très anciennes. Et on sait très bien, j'en ai déjà parlé de ça dans d'autres circonstances, que la doxologie, grande ou petite, on sait très bien qu'elle nous vient des anges. Parce que c'est un magnifique hymne que les anges ont chanté. Ils ont chanté juste le début. Mais quand même, c'était déjà pas mal à Noël, quand ils ont prononcé cette louange et que les bergers l'ont reprise et que c'est entré dans la tradition de l'Église. Donc c'est quelque chose qui est une hymne qui est d'origine angélique, hein, qui a été révélée à ce moment-là. Donc c'est vraiment très, très très important. Vous savez, c'est Denis l'Aréopagite, et qui est un homme vraiment très très intéressant, il dit beaucoup ça. Il dit, si vous voulez, que ce qui se fait dans l'Église, dans le domaine liturgique, est en grande partie d'origine angélique, qui fait cette correspondance entre la hiérarchie céleste et la hiérarchie ecclésiastique, par exemple. Et donc, en fait, nos offices liturgiques, c'est pour ça qu'il faut résister à la critique faite par les protestants, par exemple, qui considèrent qu'en fait, ça c'est du formalisme, que l'Église ancienne n'avait pas tout ça, et qu'on s'est éloigné de l'Église primitive. Bon, mais on peut discuter de ça, si vous voulez, mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que nous faisons dans notre Église orthodoxe, c'est tout ceci nous est donné par Dieu. Que nous, si nous le faisons mal, effectivement, nos amis protestants ont raison, parce que nous le faisons sans esprit prophétique. Ça, c'est un péché grave. Ça veut dire que nous prononçons le nom de Dieu à la légère, que nous offensons Dieu par notre célébration, que nous moquons de Dieu en lui disant des prières que nous ne pensons pas. C'est très très grave, et que nous serons jugés terriblement, très très sévèrement au dernier jour pour ça, c'est vrai. Mais si nous avons une conscience vraiment mystique de ce que nous faisons, ces prières sont certainement agréables à Dieu, et nous retrouvons à ce moment-là leur origine angélique et céleste. Parce qu'en fait, nous, c'est très beau de penser ça, c'est que nous offrons à Dieu ce qui vient de Dieu, ça c'est la base. Donc nous rendons à Dieu ce qui nous a été révélé par les anges comme venant de lui. Et c'est Dieu qui a inspiré, par exemple pour cet hymne-là, c'est Dieu qui a inspiré aux anges de dire « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes ». Les anges n'ont pas trouvé ça tout seuls, et j'aime beaucoup les anges, ce sont des gens très intelligents, mais ce n'est pas eux qui ont inventé ça. Les anges sont les messagers de Dieu. Donc les anges ont communiqué la prière que Dieu voulait que nous disions. Et donc c'est très important, l'origine divine de ce que nous faisons, elle doit être soulignée de temps en temps, autrement on va tomber dans une problématique, on va dire qu'il s'agit simplement de prières humaines, mais ça ce n'est pas vrai. Dire dans l'Église, il n'y a jamais de seulement humain, de même qu'il n'y a jamais de seulement divin. Tout dans l'Église est divino-humain. Et par conséquent, c'est une erreur, c'est un péché grave de dire qu'il y a dans l'Église des choses qui sont purement humaines ou même purement divines. Même l'Eucharistie n'est pas purement divine, elle est divino-humaine. Divino-humaine, vous voyez, c'est ça c'est terminé, ça. L'idée d'un uniquement divin, d'un uniquement humain, c'est quelque chose qui est complètement dépassé depuis l'incarnation. Ça ne veut plus rien dire, ça. Ou alors C'est de l'archaïsme, vous voyez. Je pense qu'il y a des mouvements religieux sur Terre qui sont profondément archaïques et qui continuent à fonctionner comme s'il y avait un Dieu réduit à la divinité et une humanité réduite à l'humanité. Voilà, c'est des comportements archaïques qui se manifestent par des violences terribles, d'ailleurs, dans l'histoire, et particulièrement dans l'histoire contemporaine. Mais la réalité est autre. La réalité est marquée par la divino-humanité. Donc les offices de l'Église sont divino-humains, ils ne sont pas purement humains. Mais c'est à nous de les célébrer correctement, vous voyez. Je crois que généralement, les critiques qui viennent de l'extérieur, en particulier du monde réformé, viennent du fait que nous célébrons d'une manière indigne. Indigne. Moi, je vous assure, de ma petite expérience, je ne sais pas si c'est très intéressant de dire ça, mais quand même, je me rappelle d'avoir plusieurs fois quand même m'être trouvé à côté de personnes qui célébraient vraiment. Je me rappelle l'archevêque Roman à Bucarest, qui était l'archevêque de l'archevêché de Bucarest à l'époque, peut-être un homme dont on n'a pas jamais parlé beaucoup, mais je me souviens de sa présence à l'hôtel. C'était impressionnant, c'est-à-dire qu'il était hyper conscient de ce qui se passait là. Je me rappelle de la présence à l'hôtel de l'archevêque Basile Krivosheïn, qui était un évêque du patriarcat de Moscou, qui vivait à Bruxelles à l'époque. C'est lui qui a écrit de très beaux... Enfin, c'est lui qui a publié en français, dans les sources chrétiennes, les textes de Saint-Siméon, le nouveau théologien. Il a écrit aussi un très beau livre sur Saint-Siméon, le nouveau théologien, donnant des textes. Et l'archevêque Basile était un homme comme ça, c'est-à-dire qu'il... Quand il célébrait, il n'accomplissait pas des rites, si vous voulez. Il n'était pas dans simplement la réalisation de ce qu'il faut faire, ce qu'il faisait. Il respectait le typicon, c'est pas ça que je veux dire. Mais il était dans l'événement. Il était dans l'événement, c'était impressionnant, c'était bouleversant. L'archevêque Basile, je me rappelle, il était comme un petit enfant devant l'autel. Comme un petit enfant. Et c'était drôle de dire ça, parce qu'en fait, il était âgé, il avait une barbe blanche très abondante. Mais imaginez un petit enfant avec une barbe blanche. C'était impressionnant. C'était ça, l'archevêque Basile. Je me rappelle très bien de ça. Et je me rappelle aussi d'avoir été beaucoup avec le père Sofiane à Bucarest. Et le père Sofiane, c'est pareil, c'était quelqu'un, si vous voulez, qu'il était dans le réel spirituel, il était dans l'événement spirituel. Il connaissait très 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 bien le typicon, il était absolument incollable du point de vue de la connaissance de la tradition liturgique, mais il ne célébrait pas comme un professeur de liturgie, si vous voulez. Il célébrait comme un saint. Et même, je me rappelle aussi, à la Sainte Montagne, d'avoir assisté une fois ou deux à la célébration de la Divine Liturgie avec Père Emilianos, qui est de bienheureuse mémoire lui aussi. Il y a quand même des gens, si vous voulez, qui célèbrent comme ça, en toute sainteté. Le Père Sofroni, je me rappelle d'avoir vu, ça m'est resté, c'est une chose inoubliable pour moi, d'avoir vu le Père Sofroni présider l'office des présanctifiés au monastère en Angleterre. Et je vois encore, vous savez, l'office des présanctifiés, il y a cette entrée qui est très très impressionnante avec les dons consacré, justement, tout le monde se prosterne, c'est très sombre dans l'église, ça fait très peur à tout le monde, bon. Mais c'est un moment très grand. Et la façon dont Père Sofroni entrait en portant les dons, je suis sûr que c'était saisissant. Qu'est-ce qui était saisissant? Je crois que c'était son hyper-conscience de ce qui se passait. Oui. Il était totalement dans le présent de l'événement liturgique, disons, était complètement hyper conscient, comme le sont les anges, je pense. Il était complètement dans le statut angélique du célébrant. Et j'ai vu aussi, bon là je parle d'évêques, de hiérarques très grands, mais j'ai vu, justement en Roumanie aussi, des femmes du peuple roumain dont les yeux faisaient jaillir des larmes au moment de la communion eucharistique, tellement elles étaient présentes à la présence aussi. Il y a quand même, pour nous, la possibilité d'une expérience tout à fait réelle de ce qui se passe, voyez, d'être dans le présent du présent, le présent de la présence. Et donc, cette grande doxologie, pour cette raison-là, comme je le dis, donc, est une hymne, non pas humaine, mais angélique, et que nous proférons à ce moment-là. Et après ça, pratiquement, c'est terminé. Il va rester des litanies très importantes, il va rester ce qu'on appelle les apostiches, c'est-à-dire des formes poétiques disant le mystère de la fête, et puis il va rester le Tristagone, bien sûr, Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, parce que ça c'est absolument inoubliable, c'est encore angélique aussi, on est beaucoup dans la louange angélique, en fait, dans le vice de matine, hein. Notre Père du jour, la grande litanie de la fin, la finale et le congé, bon. Donc ça se termine. En fait, une fois qu'on est arrivé à la doxologie, on est arrivé un peu au maximum de la louange. Et mais il faut savoir que quand c'est la grande doxologie, c'est intéressant, quand on appelle la grande doxologie, l'hymne est chanté. Et quand il est chanté jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il est chanté en incluant le Trisagion chanté également. Alors ça, c'est magnifique, ça. Parce que ça fait un seul chant de gloire à Dieu au plus haut des cieux. Qui est le début du chant, mais chanté, hein, jusqu'à la fin du Trisagion, sous sa forme complète, vous savez, où il y a, pas entrer dans le détail de tout, malheureusement, mais donc ça fait un ensemble doxologique impressionnant, très 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 beau, mais très beau, pas dans le sens esthétique, vous comprenez ce que je veux dire, c'est beau dans le sens angélique, hein, dans le sens de la transparence à la lumière divine, dans le sens de l'enthousiasme spirituel, il faut faire attention aussi. Qu'est-ce qu'on appelle beau, qu'est-ce qu'on appelle beauté, ça peut être très ambigu. Hein. Nous ne sommes pas non plus dans la beauté liturgique en proie à l'esthétisme. Enfin, nous ne devrions pas l'être, toujours. Enfin, je dis ça, bien sûr, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues chantres, célébrants et autres. Une des déviations, encore, parce qu'il faut faire attention aux déviations, il y a des hérésies dans le dogme. Mais il y a des hérésies liturgiques aussi. Alors j'ai fait une certaine liste. Bah, une des hérésies liturgiques, c'est l'esthétisme. C'est-à-dire la fascination idolâtre de la beauté palpable. Et c'est lié, l'esthétisme est souvent lié au péché de l'amour de soi, à la vaine gloire, où on s'écoute chanter. Il n'y a plus de Dieu. Alors, Dieu n'est pas intéressant, c'est moi qui suis intéressant. Regardez comme je chante bien. Ça, ce sont des déviations. Mais les déviations ne nous intéressent pas. Elles nous intéressent simplement comme barrière. Il ne faut pas aller par là, il ne faut pas aller par là. Mais ce qui nous intéresse, c'est au milieu, c'est la réalité, la vérité de l'office. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même une structure. Et de même, pour continuer aussi sur ça un petit peu, il me reste peu de temps quand même. Oui, je ne reviens pas sur les livres nécessaires, parce que j'en ai déjà parlé. Les hymnes, je viens d'en parler principalement là avec la doxologie, donc j'y reviens pas trop. Peut-être je voudrais dire quand même un mot sur, un premier mot sur le fait que, au contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que voilà, c'est les structures qu'on respecte, machin, etc. Il n'y a pas d'arbitraire, etc. Pour me contredire moi-même, ce qui fait pas de mal, il faut dire aussi que le croyant de base dont je suis et dont sont peut-être une partie des personnes qui écoutent ce soir dans les paroisses isolées ou à la maison dans une salle prêtée par quelqu'un dehors peut-être même parce qu'ils n'ont pas trouvé de lieu pour célébrer donc ils ont célébré dehors face au soleil levant s'il vous plaît face au soleil levant donc ça c'est extraordinaire ça célébrer l'office de matine avec le soleil qui se lève devant toi ça c'est quand même pas mal. Bon, mais ces personnes-là, dont je peux être aussi, quelquefois ne peuvent pas dire l'office de matine complètement, soit parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, soit parce que le temps manque, soit parce qu'il leur manque un bouquin, pas pour des raisons louables, respectables. Et donc, on peut aussi faire un office de matine abrégé. Et je n'ai pas envie de dire ça devant la caméra. De même qu'on peut dire un office de vêpres abrégé. La question, c'est très important, la question de l'abréviation des offices est une question très très importante, parce que justement, elle doit être faite en connaissance de cause. Ce n'est pas n'importe quoi. On peut détruire complètement le sens d'un office si on l'allège mal. Et en tout cas, cette abréviation, elle est purement provisoire. purement circonstanciée, purement occasionnelle, et elle ne constitue pas une réforme du système liturgique. Vous voyez, c'est purement ce jour-là, dans les circonstances actuelles, on ne peut pas faire autrement, donc on va abréger. Et si on abrège, qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut jamais enlever? Quelles sont les parties indispensables? Alors voilà, ça donnerait 30 minutes, ça donnerait. La bénédiction du début. Alors si le prêtre est là, il donne la bénédiction presbytérale. S'il n'y a pas de prêtre, on dit par les prières de nos saints pères. C'est bon. Ensuite, un psaume de l'hexapsalme. Il y en a 6. Un psaume. Alors, soit à la suite chaque jour, si on dit le vis tous les jours, on dit il y en a 6, on les fait à la suite. Sauf si c'est occasionnel. Moi, ce que je conseille, ce que je fais aussi, c'est le dernier, le 142. Que tu finis par connaître par cœur également. Donc à la limite, tu as pas... Oh, écoutez, à la limite, on pourrait célébrer l'office de matine sans livre, sans rien, avec notre mémoire. Imaginez qu'on est sur une île déserte, qu'un avion est tombé, je sais pas quoi, on a perdu tous les livres liturgiques, on est des survivants sur une île déserte. On dit, qu'est-ce qu'on fait? On va célébrer quand même. Mais on va célébrer avec notre mémoire. Ça peut arriver, ça. Et voilà, donc, un psaume. Ensuite, le Trois-Pères du jour, ça c'est indispensable aussi. Ensuite, le psaume 50 est indispensable. Et ensuite, alors, dans le canon du jour, qu'est-ce qu'on va conserver? Supprimer totalement le canon, ça c'est un péché, il ne faut pas faire ça. Mais on ne peut pas le dire en entier, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, l'irmos, c'est-à-dire l'irmos, c'est la partie chantée qui est au début du canon, qui est indiquée dans les livres liturgiques par des guillemets. Donc l'irmos, ça c'est important, à mon avis, il faut le laisser, ça. Si tu l'enlèves ça, tu t'appauvris. Enfin, j'ai vu dans certaines églises grecques, ils suppriment l'irmos pour gagner du temps, mais je pense qu'ils ont vraiment tort. Il faut garder ça, parce que ça donne vraiment le sens de l'heure de la sanctification du temps. Enfin bon, donc l'irmos chanté et un tropère de chaque ode. C'est souvent les odes, un. Bon, mais donc c'est tout à fait gérable. Les psaumes lodiques, ça reste toujours aussi. Tu peux pas supprimer les psaumes lodiques, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui reste? La petite doxologie. Ben c'est pareil, tu ne peux pas enlever la petite doxologie. Tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas enlever. Les apostiches restent, ça n'est pas bien long. Ensuite, Trisagion et notre père, ça, tu ne peux pas enlever non plus. Bon. Et ensuite, ce qu'on appelle l'apolitikion, qui est le tropère du jour. Et la finale, ça fait 30 minutes. Et ben, donc en 30 minutes, on a quand même un office qui se tient et qui n'est pas dénaturé. Voyez, c'est comme à l'office de verbe aussi, on peut... On a peu de temps. Ben, normalement, l'office des verbes, si on le fait correctement et complètement, c'est-à-dire tous les psaumes indiqués dans ce qu'on devrait faire, c'est l'office des verbes dure une bonne heure. S'il dit ne dure pas une bonne heure dans la plupart de nos paroisses, c'est que on abrège systématiquement, on ne dit pas les psaumes. Mais qu'on le fasse une fois, je comprends. Mais il ne faut pas faire ça toujours, c'est un péché. Les psaumes doivent être entendus. Les psaumes, c'est notre culture, c'est notre langage. C'est pas possible. Mais... Ouais, bon, mais occasionnellement, on va faire comme ça, oui. Donc, je voulais dire ça, et puis, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas. Si, je pense peut-être terminer sur les rites, hein, dans les 3 minutes qui restent à peu près. J'ai parlé des sorties, donc c'est assez important. Il y a un autre aspect rituel dans l'office de matine qui est caractéristique, c'est l'importance de la lumière, comme à vêpres, mais c'est un sens différent évidemment. C'est la lumière matinale, c'est la lumière résurrectionnelle, et donc qui est nécessaire aussi. On allume même les jours où on n'ouvre pas les portes, on allume quand même au moment du début, il y a la lumière et l'encens. Donc on retrouve dans l'office de matine, ce qu'on a quand même à l'office de vêpres, c'est-à-dire l'offrande de la lumière et l'offrande de l'encens, qui est presque indispensable. Alors, s'il n'y a pas de prêtre, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va offrir de l'encens quand même. Mais au lieu que ce soit un encensement dans toute l'église, par le diacre ou par le prêtre, l'un d'entre nous va allumer devant l'icône du Christ un petit brûle-parfum et on va offrir de l'encens. Mais oui, de même, on va allumer dans la nef où on est, on n'allume pas l'autel, bien sûr. Mais l'endroit où on est, c'est-à-dire ce qu'on appelle la nef, entre l'entrée et les sanctuaires, l'endroit où on est qui nous appartient, parce que c'est là que se tient le peuple de Dieu, le peuple royal de Dieu, il est chez lui dans la nef, la partie la plus grande de l'église. On va allumer les lumières devant les icônes, et on va offrir de l'encens, par exemple, devant l'icône du Christ, oui. Donc ça, c'est, ça veut dire que ces rites-là font partie quand même de l'office de matine, y compris dans le cas où c'est un office non presbytéral. Voilà, je vous remercie, je m'en pardonne. C'est un peu fouillis tout ça, oui. Bon, voilà, bonsoir, bonsoir. Vous avez une question, oui. Oui.
En fait, vous avez établi un rapport, une mise en parallèle entre les matines et les vêpres.
Oui.
Alors, vous avez dit que les matines, c'est basé sur une sortie.
Oui.
La sortie du Christ du tombeau.
Oui, oui, oui.
Voilà. Et donc, je voulais savoir de l'autre côté, donc au niveau, enfin, pour les vêpres, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'à un moment donné, vous parlez de. Donc, les matines, c'est la sortie, et donc les vêpres, ça devrait être l'entrée, c'est ça ?
C'est l'entrée,
donc,
oui, oui.
Donc, vous parlez au début d'une confrontation à la mort.
Oui, oui, oui.
Et
oui.
Vous donnez un exemple, l'hymne de Siméon.
Oui.
Pourtant, ce n'est pas. Ce n'est pas ça l'entrée. Ah, et ensuite, vous parlez aussi d'un autre hymne, le Seigneur est entré dans son règne.
Oui, oui,
vous dites,
c'est,
voilà.
C'est ça,
d'accord. Il s'est revêtu de splendeur.
Ça, oui, et c'est très important, c'est le prokimenon des vêpres du samedi soir. Oui, 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 oui.
Donc en fait, c'est quoi l'entrée
Je pense qu'il y a une bête de paradoxe. Certainement, le Christ entre dans la mort. Ça, c'est incontestable.
Ah, d'accord.
Mais il y entre comme lumière. Il y entre comme lumière, il y entre comme roi. Et il y entre comme ressuscitant, en quelque sorte. Il y entre comme triomphateur. Ça, c'est très, très important. Là, l'entrée du Christ dans la mort est une entrée lumineuse. Il éclaire la mort de l'intérieur en y pénétrant. Mais donc, je pense qu'il reste quand même cette idée que le Christ passe par la mort pour régner. Qu'il va, comment dire, entrer dans son règne. Et finalement, être glorifié à la droite du Père, etc., en étant passé par la mort et en ayant arraché au tombeau tous ceux qui étaient morts depuis des siècles. C'est pour ça que c'est assez complexe. C'est l'idée qu'il entre dans la mort pour entrer dans son règne.
Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas que donc, le parallèle, mais il y a la continuité donc, entre les
oui, voilà,
et les
c'est
matines.
Ça. Mais oui, mais,
donc,
oui, mais c'est pour ça.
Il entre pour sortir, en fait.
Bien sûr, vous avez parfaitement raison que là, je les ai mis en pas en opposition, mais en parallèle, mais en réalité, le fils de vêpre pointe vers le fils de matine. Entre vêpre et matine, il y a d'autres choses. Vous savez, il y a le petit ou grand accompli, il y a le fils de minuit, il y a le fils royal. Mais en fait, le fils des vêpres prépare, prépare, bien sûr. Comme le vendredi saint prépare la résurrection. C'est toujours la façon. Tous nos offices ont une structure pascale. Ça, il faut bien comprendre que c'est ça l'office ecclésial. Et dire que tout ce que nous faisons, dire même par exemple le jeûne, les jeûnes dans la semaine, etc., ne se comprend que comme jeûne pascal, mais toute l'année. Et notre semaine de toute l'année est une semaine pascale. Le jeudi, c'est le jeudi saint, le vendredi, c'est le vendredi saint, le samedi, c'est le samedi saint, c'est pour ça qu'on prie pour les défunts, par exemple. Et le dimanche, c'est Pâques, toujours. On chante toujours les trois heures de Pâques à ce moment-là. Oui. Tout est calqué, en fait. Le système, l'événement pascal est tellement normatif pour le monde, pour l'histoire et pour les chrétiens, mais pour tous en fait, qu'il imprime son sceau sur tous les événements de l'année.
Et à un moment donné, vous dites qu'il est important de tester notre niveau d'émerveillement. Vous avez des suggestions?
Oui, je ne sais pas. Ben, c'est-à-dire que nous avons une sensibilité intérieure. Nous sentons quand même quand nous sommes dans l'émerveillement, quand même. Regardez les garçons qui allaient à Emmaüs, ils partaient en week-end comme on fait maintenant, et en partant au week-end à Emmaüs, ils ont rencontré le Christ. Ça, il ne faut pas empêcher les gens de partir au week-end. On ne sait jamais. Ils peuvent trouver sur une aire de repos, sur l'autoroute, quelqu'un à qui ils vont parler, qui sera en fait le Christ. Bon, donc, ils ont. Et qu'est-ce qu'ils ont. Quel était leur test, justement, intérieur? C'était justement leur cœur brûlant. C'est étonnant, ça. Et les types, ils ont dit, mais c'est beau, ça.
Oui.
Notre cœur n'était-il pas brûlant quand nous l'écoutions?
Mais vous parlez aussi des cœurs des femmes mirophores
qui
brûlaient de cet amour et de cette tendresse.
Oui,
vous avez parlé de ça.
Oui.
Pour moi,
c'est très complexe. Nous pouvons éprouver, et notre cœur est capable d'éprouver plusieurs.
Mais chez elles, c'était rien d'acquis par leur. C'était pas de leur fait, en fait. C'était un don, et je pense que c'était dû à la proximité avec le Christ.
Oui. Et aussi à un mystère dont que j'ai omis, pardon. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est que tout ce qui se passe dans la Semaine Sainte est une pneumatophanie. Il y a une manifestation du pneuma du Saint-Esprit. La résurrection est une manifestation du Saint-Esprit. Et la course des femmes et des disciples après cette course au tombeau, parce qu'ils allaient même tellement, il y en a qui allaient plus vite que l'autre. Jean arriva le premier parce qu'il courait plus vite, mais il n'entra pas. Pierre arriva après, il courait moins vite et plus âgé, mais il entra. C'est extraordinaire de leur raconter ça. Donc il y a une course au tombeau. Et les femmes aussi, elles sont pressées, elles disent allons, allez vite, dépêche-toi, les copines, allez-y, on va faire ça. Donc il y a c'est pas de la précipitation, mais une hâte. Elles se hâtaient. Un des textes dit elles se hâtaient. Très tôt le matin, les femmes se hâtaient. Alors on dit, oh, est-ce que vous avez peur des juifs? Mais non, c'est pas ça du tout. Parce qu'il fallait se dépêcher. Mais pourquoi? Non, elle se hâtait parce qu'elle était impatiente par amour. Elle était amoureuse, enfin, pas amoureuse si vous voulez, mais éprise du Christ, vous voyez, avec une telle ferveur, vous voyez, une telle ferveur.
Et nous, il faut demander.
Et ça vient du Saint-Esprit aussi. Et de cette ferveur, nous la ressentons. Donc, quand je dis que nous devons tester notre niveau d'émerveillement, c'est-à-dire nous devons ressentir la grâce du Saint-Esprit dans notre cœur, sous une forme ou sous une autre, soit comme un émerveillement, soit comme un enthousiasme, soit comme une douceur, soit comme une crainte, soit comme une adoration. Enfin, le ressenti, c'est très important. Et le cœur, nous avons un organe en nous que Dieu nous a donné, qui n'est pas l'esprit en l'occurrence, et qui est le cœur, et qui est l'organe de la sensibilité à lui. C'est pour ça que le cœur est l'organe de la connaissance de Dieu, parce qu'en fait, nous connaissons Dieu quand nous le touchons. Et quand nous le touchons, avec nos mains, si nous sommes saint Thomas, avec notre bouche, quand nous communions à son corps et à son sang, nous le touchons aussi par le cœur. C'est l'organe du contact avec Dieu. C'est vraiment très intéressant.
Il faut le demander, ce cœur.
Oui. Mais si on est comme une pierre... un bloc, on ne devrait pas commencer à prier. On a tort, il faudrait demander et dire, mais j'ai pas bien, montre pas ta présence, touche mon cœur, brise mon cœur par l'amour pour toi, regarde, ou quitte à dire à Dieu, regarde, oh Dieu, comme je suis sec, comme je suis mort, je suis un vrai bout de bois devant toi, je ne prie pas, donne-moi la grâce de te prier, avant de te prier, donne-moi la grâce de le faire. Ça, il y a beaucoup de choses à demander à Dieu avant de dire gloire à la Sainte, consubstantielle Trinité, etc. Et souvent, on ne le fait pas. Et parce qu'on ne le fait pas, du coup, on reste comme un bout de bois pendant tout l'office après. Ah bon, j'exagère un peu peut-être, mais. Moi, j'ai beaucoup appris, ça marche toujours ce truc, j'ai beaucoup appris en fait de la prière du cœur, la prière de Jésus. Je crois que c'est vraiment pour nous les orthodoxes, c'est la. Quand même, pas pour moi en tout cas, je pense pour d'autres, c'est tout de même l'expérience de base, c'est-à-dire que le fait nous répétons au Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, etc., nous le répétons, mais nous ne le répétons pas en fait, nous le disons chaque fois de façon unique et chaque fois en cherchant le tressaillement de notre propre cœur, la sincérité, si vous voulez, la vérité. Mais le tressaillement, nous cherchons notre cœur. Nous disons quelquefois le chapelet 100 grains, 300 et plus, autant qu'il faut, tant qu'on n'aura pas trouvé ce lieu qui est le lieu du cœur, qui est en fait le lieu de l'émerveillement, justement.
Et pourtant, vous mettez beaucoup l'accent sur la prière de louange, justement liée à ça.
Oui. À la prière de louange, elle cherche aussi le tressaillement du cœur dans les deux cas. Bien sûr, la prière du cœur telle qu'on l'a connue, la prière de Jésus telle qu'on la connaît, c'est plutôt une prière de repentir. Encore que la première partie et doxologique. On dit Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, mais c'est une glorification quand même. C'est la deuxième partie seulement qui est pénitentielle, si je peux dire. Mais en tout cas, bon, après ça, si on dit une prière de louange, gloire à, par exemple, ce qu'on a actuellement dans les offices, gloire à ta sainte résurrection, Seigneur Jésus, gloire à toi, c'est une prière magnifique et qui est dans nos offices du Pentecôster. Il faut pouvoir dire ça vraiment avec son souffle, hein, vraiment, oui. Avec tout son ressenti. Tout son ressenti. C'est très important. Et là aussi, il faut résister aux critiques qui sont faites de l'extérieur de l'Église. On dit, ouais, tout ça c'est subjectif. Eh bien, monsieur, pourquoi ce ne serait pas subjectif? Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait que ça soit subjectif? Expliquez-moi. Bah, c'est extraordinaire tout de même. Qu'est-ce que c'est que ce soupçon de la subjectivité? Bah, en plus, ce qu'a très bien expliqué Père Dimitri Staniloé, que je n'ai pas encore nommé ce soir, généralement je le nomme au moins une fois à chaque cours, il a expliqué que quand nous parlons de subjectivité, nous ne l'opposons pas à objectivité. L'expérience religieuse, elle est objective, subjective, je ne sais pas comment dire, c'est une seule. C'est-à-dire que c'est l'expérience de la vérité qui est effectivement objective, parce que le Christ est ressuscité, et qu'on veuille ou pas, c'est objectif. Hein. Là, il y a des témoins qui l'ont vu, mais cette objectivité, elle est saisie subjectivement. C'est une expérience, l'expérience de connaissance de Dieu, c'est une saisie subjective de l'objectivité. Et c'est pas subjectif dans le sens de arbitraire, dans le sens de psychologique, individuel, d'atomisation de la connaissance. La preuve, c'est que cette subjectivité, elle est tellement unitaire qu'elle est cohérente de personne à personne et qu'elle fonde l'Église. L'expérience subjective de la vérité du Christ ressuscité est quand même le fondement de l'Église. C'est très intéressant. Je ne sais pas s'il faut parler encore. Est-ce que tout est enregistré, je ne sais pas.
Oui.
Allez. Ah, c'est vous qui arrêtez. Oui, je vous en supplie. Mettez un terme au supplice de l'auditeur.
C'est extraordinaire, cette peur de la subjectivité. Je me suis confrontée à cela il y a deux jours. Ouais. J'ai parlé à quelqu'un qui est écrivain, aussi, qui est journaliste, ouais, professeur, et je lui ai demandé un témoignage sur quelqu'un qu'il connaissait. Il était le neveu d'un prêtre, l'un des confesseurs de la foi des prisons, qui a fait la prison communiste. Et il m'a dit oui, j'ai des cartes postales envoyées de la prison à sa femme, depuis la prison, mais il dit ça pourrait ne rien dire, il faut rajouter un commentaire à ces cartes, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est ce qu'il n'a pas dit, parce qu'il ne pouvait pas dire grand-chose, il y avait la censure, tout ça. Et j'ai dit, oui, très bien, mais donc vous êtes le plus en mesure de faire ces commentaires. Et il me dit, non, en fait, non, parce que vu ma proximité avec la personne, on me considérera subjectif. Je dis, mais pourquoi? Mais justement, mais il faut que vous soyez subjectif, c'est un témoignage. C'était formidable. Il avait cette peur d'être considéré, d'être pris pour subjectif. Moi, je trouve
pris en flagrant délit de subjectivité.
Oui, moi, je trouve la subjectivité, en fait, c'est tout ce qu'il peut y avoir de plus objectif, en fait.
C'est vraiment un faux problème. Ça, c'est vraiment une problématique occidentale. Ça, c'est.
Mais lui, il est romain, il était en Roumanie.
Nous, les orthodoxes, nous avons une manière de fonctionner très 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 différente, mais c'est vraiment Père Staniloé qui a expliqué ça. Il a passé beaucoup de temps à démonter ce faux problème. Il l'a fait avec toute la culture philosophique qu'il a. L'opposition sujet-objet, c'est une catégorie occidentale, ça vient de l'époque médiévale, c'est une catégorie aristotélicienne, c'est pas une catégorie patristique. Et c'est autre chose. Cela dit, bon, beaucoup de nous, les orthodoxes aussi, on est contaminés aussi nous sommes assez occidentalisés, même en Russie, en Roumanie, aussi, ça dépend un peu des milieux, mais quand même, dans l'ensemble, le totalitarisme occidental, l'humanisme, ça fait des ravages un peu partout. Hein, c'est. Alors c'est pour ça que le Père Saint-Éloi est très intéressant pour ça, parce qu'il a, bien compris, même très, très, très intelligent, c'est un des gens les plus intelligents de son époque, quand même. Il a très bien compris le problème, donc il a redressé ça, il a réexpliqué ça, il a remis les choses à leur place, pas de manière défensive, mais d'une manière active. C'est pour ça que la dogmatique de Père Demetrius, c'est sensationnel. Pour cette question-là, il a resitué la vision orthodoxe de Dieu, du monde et de l'homme, il l'a resitué à partir justement des, ce qu'on pourrait appeler les agressions occidentales, qui n'étaient pas perçues comme des agressions par les intellectuels roumains du tout, considérées comme des apports. Les intellectuels roumains comme les intellectuels russes étaient là, les mains ouvertes à recevoir tout ce qu'ils pouvaient recevoir de l'Occident, comme forcément, si ils viennent de l'Occident, c'est forcément bien, etc. Ils ont reçu beaucoup de bêtises comme ça. Et Père Demetrius, au moins, il restaure bien la place juste de ça.
J'avais pas pensé que c'était tellement culturel et tellement ancré. Moi, je considère toujours qu'une subjectivité et voilà, quelque chose de personnel vaut beaucoup mieux qu'une objectivité générale. Enfin, je sais pas.
Oui, même en tant que témoin. Oui, mais parce que vous êtes quand même issu aussi de la culture roumaine. Familiale, vous êtes de l'orthodoxie, je pense que vous êtes aussi porteuse d'une vision beaucoup plus synthétique des choses. L'Occident est très très dualiste, hein, c'est très très dur, hein, la culture occidentale est dure, hein. Tout est séparé, la théologie est là, la mystique est là, la raison est là, le sentiment est là, Dieu est là-bas, l'homme est ici, tout est cloisonné, c'est un cloisonnement culturel. Hein. Alors que le fonctionnement traditionnel des pères, c'est beaucoup plus synthétique, beaucoup plus organique. Du coup, ça donne l'impression de désordre. Au point de vue occidental, on dit, mais où est-ce que vous rangez les choses? Où sont vos placards pour qu'on range les choses? Et nous, on n'a pas de placard, on met tout comme ça ensemble. Et ça, c'est une impression de désordre. Ça, je vois ça tout le temps quand je rencontre mes amis catholiques ou protestants. Quand ils nous parlent de l'Église orthodoxe, eux, ils perçoivent toujours l'Église orthodoxe comme un désordre, hein. Un désordre ecclésiologique. On n'a pas de pape. Bon, qu'est-ce qui nous manque encore? Des choses très très importantes qu'on n'a pas. Oui. Et quand on dit, mais attendez, nous, ça fonctionne très bien. On a un autre système d'unité. C'est la conciliarité. C'est la réconciliation. C'est le dialogue difficile quelquefois entre les frères. Et ça donne l'illusion d'une impression de désordre. Et en fait, c'est un désordre qui comporte un ordre. Il faut arriver à percevoir cette ordonnance profonde de ce qui apparaît extérieur. Un bouillonnement. Mais un bouillonnement dans la mer, c'est pas un désordre. Il y a des lois dans ce bouillonnement. Ah voilà. Merci. Pardonnez-moi.
Merci, mon père.